Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur le 93.6. Vous êtes sur Radio Bulle, votre radio de la Genêt. Merci de votre fidélité, Myriam Besson avec vous pour vous présenter un nouveau numéro de Café César. Mais d'abord, je salue mes participants du jour que je suis très heureuse de retrouver. Bonjour Patrick.
Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bonjour Christelle.
Bonjour Myriam, bonjour Patrick, bonjour tout le monde.
Et je vous propose de saluer nos auditeurs et nos auditrices, parce que nous en avons rencontré hier soir à la conférence donnée par Sanji, l'auteur du livre de César. Et c'était un vrai bonheur de les rencontrer, ils se reconnaîtront. Comme vous le savez, Café César, c'est notre petite parenthèse, je dirais, d'essentiel, où je vous invite à voyager dans une histoire du vieux sage César, le héros des romans de Bernard Montault, et ensuite à échanger en studio avec mes invités sur ce qu'elle nous a inspiré. Et on va faire un vrai voyage sans bouger de chez nous. Car ce sacré César, il va un peu bousculer nos façons d'être et de penser. Parce qu'on va rencontrer un petit Jacques qu'on connaît bien dans ses maladresses, touchantes, et un César qu'on reconnaît bien au fond de nous aussi. Alors, cette parenthèse fermée, nous allons écouter l'extrait du jour. J'ai choisi un extrait du chapitre 1 de César l'éclaireur, le tout premier roman de Bernard Montault, et c'est au tout début, c'est la rencontre. On écoute Patrick.
Nous étions là, l'un en face de l'autre, nous piquant. La transfusion faisait des ravages, agrandissant son sourire à la mesure de mon embarras. 1000 ans s'étaient écoulés quand il ouvrit la bouche pour la seconde fois. « C'est contagieux, hein ?» me fit-il sur un ton narquois. J'étais démasqué, rouge jusqu'aux oreilles. Comment lui, l'étranger, il savait donc tout de ce filtre magique qui nous liait. J'en étais sûr. Il me regardait, transparent. Il avait des yeux juste pour ressembler aux hommes, mais il savait lire autrement. Rien à voir avec cet air suspicieux que l'on rencontre habituellement chez ceux qui nous jaugent, non. Lui, visiblement, il s'amusait avec tendresse. Il s'amusait de mon désarroi. Je sentis qu'il connaissait tout de moi. Je ne pouvais pas me l'expliquer, j'en étais certain. Pour la première fois de ma vie, j'eus le sentiment étrange de n'avoir plus rien à cacher. Et cela eut pour effet de me soulager. Étonnant personnage quand même. Inexplicablement, je l'aurais embrassé. Inexplicablement, je me retenais de lui sauter au cou, m'accrochant désespérément à un « mais ça ne se fait pas ». J'aurais voulu crier « oui, vous êtes contagieux !» Contagieux de joie. Mais malgré moi, je m'entendis bredouiller. Puis-je passer la nuit dans votre grange? Je ne vous dérangerai pas. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais je tiens à vous payer. Il me semblait que j'avais d'autres choses à lui dire, tellement plus importantes, mais voilà, j'en étais incapable. Il fallait qu'il l'accepte. En tout cas, j'étais résolu à rester. Je voulais le revoir. Je voulais sa présence. Rien que sa respiration. Il fallait qu'il accepte. Il me répondit comme un homme pour qui le temps ne compte pas, c'est-à-dire qu'il ne me répondit pas, cela pouvait attendre. Il se pencha, rassemblant ses fagots, reprenant méticuleusement certains nœuds qui lui paraissaient trop lâches. Il n'en finissait plus, et je trépignais d'impatience. Était-ce pour provoquer le destin? Toujours est-il qu'en avançant, je lui ai proposé mon aide. De bonne grâce, il se recula, me laissant la charve de son bois. Et nous sommes rentrés en silence jusqu'à la grande bâtisse. Pas un mot, pas un geste de trop. On aurait dit qu'avec lui, tout dans l'univers prenait sa place exacte. Même le bruissement des arbres commentait notre passage. Décidément, il était contagieux.
Voilà, c'était un extrait de ce chapitre 1. Et avant de te lire un petit bout de la suite quand même, parce que j'aime bien ce terme de contagion, on va juste s'arrêter ici. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes dans Café César et sur Radio Bulle avec Patrick, Christelle et Myriam. Et nous venons de lire un joli extrait. Et voilà, je vous pose la question, juste vos impressions sur cet extrait.
Ben, moi, justement, c'est cette contagion de joie. Quand tu l'as lu, Patrick, je me suis sentie envahie par la joie.
C'est communicatif quand on a des personnes qui ont ce charisme. Il y en a peu. Mais chacun, comme dit Bernard Monteau, doit pouvoir en rencontrer un sur sa route. On en rencontre un. Et je suis sûr que toi, Christelle, toi, Myriam, vous qui nous écoutez, vous avez très certainement en tête l'image de quelqu'un qui, quelque part, par sa manière d'être, de se comporter, a suscité en vous un élan de joie, comme vient de le dire Christelle, ce charisme.
Intéressant de cet exercice que tu proposes finalement.
Ben oui.
Fermez les yeux quelques secondes et voyez l'image qui...
Quelle est la personne qui...
Qui un jour nous a donné envie d'être... Qui a transpiré la joie. Ça peut être dans le regard, ça peut être dans une parole.
Vous l'avez, votre personne, moi je l'ai.
Moi aussi.
Ah, j'en ai plusieurs, moi, qui me sont arrivés.
Moi, un en particulier.
Et tu veux le dire ?
Oh, je veux bien. Il s'agit de Michel Barouin, qui était là aussi le président directeur général de la FNAC et de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, que j'ai eu le plaisir de rencontrer. C'était en 1980-86. Et il est mort un an plus tard. Et c'est vrai que j'en avais entendu parler et j'ai amené une commerçante de mon petit village de Soubirousse. Elle s'appelle Madame Casassus. Et quand elle a vu ce monsieur, elle m'a dit « Oh, mon Dieu, c'est lui. C'est lui qu'il nous faut. C'est l'homme providentiel. Il irradiait. Il venait de perdre sa fille, Véronique. Et j'avais pensé que jamais il ne viendrait à Villeneuve-sur-Lot. Et il est venu, pratiquement, un mois et demi après avoir enterré sa fille. Avec cette bonté, cette humanité au cœur. Même si, comme il le disait, je suis... anéanti à l'intérieur, mais malgré tout, il faut que j'avance. Et je lui ai posé cette question, une question qui me brûlait les lèvres, parce que tout le monde, à l'époque, se demandait pour qui il roulait. Et il a eu cette phrase. « Tu diras à toutes celles et à tous ceux qui se posent la question que je roule pour l'humain. Et l'humain n'est pas de droite, n'est pas de gauche. Tout ce qui est bon pour l'humain. » À mes faveurs, et je suis pour la dignité de tous. Que répondre ? Et il est mort au mois dans un accident d'avion, pratiquement quelques mois après notre rencontre.
C'était une rencontre providentielle.
Exactement, et qui nous a profondément marqués. Nous sommes un certain nombre dans le Villeneuvois à ne pas avoir oublié ce court passage dans notre vie de ce monsieur, Michel Barouin, qui avait été désigné conjointement par Jacques Chirac, dont il était l'ami. Il avait fait Sciences Po avec lui, et François Mitterrand, les deux, et comme président du comité du bicentenaire de la Révolution française, en 1989. Et on avait déjà échafaudé un certain nombre de projets ensemble, et il aurait dû revenir à Villeneuve, puisqu'il m'avait dit « je viendrai vous saluer ». Tu peux dire aux copains que je serai là et il est mort quelques semaines après en Afrique. Voilà.
On a une pensée. Moi, je rajoute rien là. Patrick m'a vraiment trop ému.
Alors, on va peut-être continuer le livre. Je voulais juste te dire, sur ton exemple, il m'est venu le regard d'une... Là, dans l'instant, il m'est venu un regard d'une religieuse où j'achetais... J'étais dans un monastère de passage et je voulais acheter une icône. Et cette religieuse qui était à la caisse, elle avait des yeux incroyables. Je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un avec un regard où il y a... c'est indescriptible. C'est comme si on y lisait l'infini dans un regard. Comment dire autrement ? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est cet instant-là qui m'est revenu quand tu as proposé l'exercice.
Oui, c'est vrai. Mais donc, ça veut dire que tous, nous sommes influencés un jour ou l'autre par, pour reprendre comme l'exemple de Bernard Montault, par notre Guita. Bernard Montault a eu avec Patricia la chance d'approcher Guita Malach. Nous avons tous une Guita qui nous attend ou que nous avons déjà dans notre cœur. Et il faut justement savourer ces instants de bonheur intense et ineffable que nous avons lorsque nous rencontrons des êtres comme ça qui nous dépassent. Parce qu'ils ont un charisme, pour reprendre l'expression de Madame Casassus, il illumine, on ne voit que lui. Et mon papa et ma maman qui l'avaient vu aussi m'ont dit « Oh, mais quel homme ! Quel homme ! » Le gars, il suffit, comme tu le disais par rapport à cette religieuse, qui porte le regard sur nous pour immédiatement se sentir important.
Ah oui. J'avais frisson.
Et en même temps, tout à l'heure, on évoquait le fait qu'on n'est pas tous sensibles aux mêmes personnes. Et je vais peut-être casser le mythe Guita, mais j'ai envie de le dire parce que la relation qu'elle a eue avec Bernard et avec d'autres qui ont été vraiment subjugués, bah, y a des gens qui étaient complètement indifférents. Et il y avait sa voisine à Sauveterre-d'Allemance et d'ailleurs, elle en jouait, qui la voyait comme une simple mamie. Il y avait une infirmière qui venait qui disait « Alors, mamie, comment ça va ?» Il y avait des gens qui ne voyaient pas autre chose qu'une mamie. Et d'ailleurs, elle ne cherchait pas du tout à montrer autre chose. Et c'est une petite anecdote que j'ai envie de raconter parce qu'on peut être touché par une personne vraiment parce qu'elle nous correspond et cette personne-là peut laisser quelqu'un d'autre complètement indifférent.
Oui,
il y a un mystère quand même dans la rencontre.
Oui, mais c'est vrai. Et rappelle-toi cette phrase de Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur.
Qu'avec le cœur, c'est
et
ça.
C'est là. Il y a l'ouverture du cœur.
Ouais.
Et il y en a qui ont le cœur qui est ouvert et qui vont être sensibles à ces personnes qui vont croiser sur la route. Et d'autres qui, ma foi, sont les mêmes, tout aussi respectables, mais qui n'auront pas cette capacité de voir avec le cœur.
Alors, est-ce qu'on continue ? On va lire un tout petit peu de la suite quand même pour le plaisir de la lecture et d'écouter Patrick. Allez, je te propose de continuer.
J'étais allé en Inde, au Japon, chercher des sages pour répondre à mes questions. Et lui, là, au milieu de tout, il a répondu sans parler. Il vivait si intensément son présent que cela devenait une cathédrale de sens. À cet instant précis, j'eus sa contagion. Il était un ordre. Il connaissait sa place sur terre, imposant aux autres de réfléchir sur la leur. J'ai posé les fagots devant la cheminée. En moi, cela vivait si fort que ce simple geste devint un contact céleste. Que cela devint un contrat céleste. Il fallait que je les mette en bonne place. Il fallait que je présente, que je pressente l'ordre des choses, que je partage cette autre dimension du monde avec lui. J'aurais voulu qu'il sache notre fraternité, qu'il la voie. Et tout ça pour trois fagots. Derrière, je sentais qu'il m'observait. Était-ce un examen de passage, un baptême de l'ordinaire ? Sa chaise grinça sur le carrelage usé. Il venait de s'asseoir. Il n'avait pas jugé bon de me corriger. En me retournant, j'ai cherché à deviner son sentiment. Je vis qu'il avait sorti deux verres et une bouteille obscure. Quel dialogue des actes et quel silence bavard. À mon mon tour, je vais m'asseoir en face de lui. Il avait des broussailles blanches au-dessus des yeux. Même assis, son corps ne s'était pas affaissé. On n'en point douter, c'était un prince des étoiles de passage sur Terre. Je me suis dit que les hommes étaient bien malades pour que leur vieillard soit si laid. Lui, il brillait son âge, et c'est sûr, le temps était son ami. Il versa deux verres de vin comme s'il manipulait de l'or. J'ai cru un instant que son respect était pour la boisson, mais lorsqu'il releva les yeux, son intensité fut telle que j'ai su immédiatement que seul l'acte de partage comptait pour lui. On aurait dit que depuis des millions d'années, il m'attendait. On aurait dit que j'avais toujours su qu'il existait. Nous étions au milieu, l'univers à nos pieds et partout le feu. Alors, il eut un baptême, un vrai, sans emphase, comme seul l'ordinaire sait l'accomplir. Il trempa ses lèvres sans me quitter des yeux et en posant son verre, il s'écria comme un tonnerre « Je m'appelle César !» Et toi ?
Merci Patrick pour cette belle lecture. Est-ce que vous avez envie de réagir ou...
Ben, c'est la suite de ce qu'on a dit. Je pense que quand vous êtes avec des êtres qui ont ce chemin de vie, vous ne pouvez que vous taire.
Tout à fait d'accord. On voit la puissance que ce personnage a à travers les écrits. Effectivement, on a juste envie de le voir, de l'écouter et de ne rien dire d'autre.
Et moi, ce passage... Alors, ce que j'aime dans ce passage, c'est au tout début, j'étais allée en Inde, au Japon, chercher des sages. Donc, parcouru le monde pour chercher des sages pour répondre à mes questions. Et pour ma part, je vivais donc à 8000 km de la France et j'étais sur une petite île exotique avec des palmiers loin de tout. Eh bien, j'ai fait le trajet inverse et j'ai pris l'avion et j'ai parcouru la Terre pour rencontrer un sage, celui du livre, bien sûr, et qui se trouvait dans notre petit coin à l'époque du Lot-et-Garonne.
À côté d'Agem.
À Saint-Nicolas-de-la-Balerme.
Oui, juste à côté d'Agem. Moi aussi, j'étais venu, mais je n'ai pas eu de chance. Quand je suis allé pour le voir, il n'était pas là. Je n'avais pas pris rendez-vous. Je pensais que là aussi, c'était... il habitait un petit château ouvert à tous.
Et oui.
Et quand j'ai poussé la porte, j'ai vu le château, mais je n'ai pas vu les habitants du lieu.
Alors moi, si je devais vous confier, ça prendrait du temps parce qu'il m'avait invité par Internet à venir le rencontrer quand je viendrais voir mes parents en France. Mais j'avais trop peur et donc j'ai mis vraiment du temps. Et c'est un jour que j'ai dit « Allez, ça y est, je suis prête, j'y vais ». Et c'était vraiment au-dedans une vraie, comment dire, un vrai challenge. Parce que avec son passé d'arts martiaux, c'était connu qu'il fallait se présenter d'une certaine manière, pas n'importe comment. En se présentant, il y avait un petit jeu à l'époque proposé de se présenter avec sa petite misère du jour. Moi, je savais pas du tout qu'est-ce que ça pouvait être et comment on allait faire. Et donc, c'est grâce à quelqu'un qui m'a vexé que j'ai pu me dire « Ah ben tiens, là voilà ma misère du jour ». Je suis celle-là, celle que j'ai aperçue à travers le miroir de ce qui m'était renvoyé, puisque je coupais la parole à tout le monde et donc je me suis trouvée superficielle. C'est comme ça que je me suis présentée. Et bien sûr, quand je l'ai vu arriver, c'était aussi quand même impressionnant. J'avais l'impression d'être devant le Père Noël, avec des rides partout, des sourcils blancs, avec un regard aussi plein de tendresse. Et quand je me suis présentée avec cette misère de la superficielle, je me rappelle de ce qu'il a dit avant de répondre à ma question. Il m'a dit « Mais quand vous commencerez à aimer la superficielle, vous verrez la qualité qu'il y a derrière. » Et bien des années après, je me rends compte qu'aujourd'hui, mais jamais j'aurais imaginé à l'époque parler à la radio, et que quelque part, il avait semé les graines de mon futur déjà. Il y a de ça, de cette toute première rencontre, il y avait déjà mon futur qui était contenu
Exactement.
Dedans.
Mmh. Comme de quoi ? Nous sommes des hologrammes.
Alors, une phrase. Que diriez-vous pour résumer ce que nous avons partagé ?
Moi, je me référerai à cette phrase d'Albert Jacquard qui disait « Au-dessus du fronton de chaque école, on devrait écrire ici. On enseigne l'art de la rencontre. Car on ne sait pas se rencontrer. Quand on rencontre les autres, c'est toujours, souvent, pour les juger. Il n'est pas ceci, elle n'est pas cela, il est trop comme ci, il n'est pas comme ça. » Et c'est vrai que ce jeu du miroir est utile parce que, à travers les jugements que nous portons sur l'autre, c'est aussi des parties de nous que nous ne voulons pas voir.
Et puis, il y a un autre aspect par rapport à quelque chose qui me revient par rapport à la conférence à laquelle nous étions hier soir, c'est d'entendre qu'on peut s'habituer à tout, même à un César. Moi, j'ai été touchée par quand le Sanji, le conférencier, disait « Mais oui, on peut être vivre à côté de quelqu'un qui a une place tellement spéciale et le voir comme un pot de fleurs si on n'y fait pas attention. » C'est quand même incroyable. On s'habitue aux gens, comme il disait, qui sont à côté de nous, alors qu'on pourrait avoir un regard émerveillé sur eux.
Eh oui, c'est tout.
Mais ça, j'ai envie de dire que c'est au quotidien.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs le thème d'un des billets d'humeur que diffuse Radio Bulle, où je dis « émerveillez-vous ». Parce que, effectivement, comme le disait Christelle à l'instant, on ne fait pas attention au quotidien. On est pris par nos petites querelles intestines. Il n'y a qu'à allumer la radio, voir la télé pour savoir un petit peu que tout le monde est à feu et à sang pour le Stade de France, pour cette rencontre, pour ceci, pour cela, pour les élections qui arrivent. Et on oublie de voir la beauté du monde. Et on oublie de voir la beauté des gens. Yes. Et si on s'arrêtait 2 minutes pour observer l'humain, qu'est-ce que nous sommes beaux. Mais le problème, c'est que nous l'avons oublié.
Et même dans nos familles, c'est malheureusement quand une personne disparaît qu'on se rend compte à quel point on a oublié de la regarder et d'en profiter.
Et sur ces belles notes, c'est déjà le moment de se dire au revoir. C'était Myriam Besson avec vous pour Café César sur Radio Bulle 93.6. Merci à Patrick et Christelle pour leur chaleureuse participation. On se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même heure, sur votre radio de la Genêt pour la suite de nos aventures et des aventures de César. N'oubliez pas que vous pouvez vous aussi participer et devenir un des invités du jour. N'hésitez pas, le studio est ouvert. Vous pouvez me contacter à myriam@radiobulle.net ou sur Facebook à Café César. Au revoir tout le monde.